Écoutez, je vous invite donc à lire Romains 14, 1 à 12. 1 à 12, on va lire. Paul écrit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, et celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Comme j'ai dit, j'ai intitulé mon message « Les chrétiens forts et les chrétiens faibles ». En fait, le texte devant nous nous plonge dans un des problèmes qui existaient dans l'Église à Rome. En fait, un problème qui existe dans quasiment toutes les églises locales du monde entier depuis. Le problème des désunions et des divisions. Alors, parlons un peu en premier, de manière générale, des divisions d'Église. Moi, j'y ai réfléchi un petit peu cette semaine. Je pense, peut-être j'ai tort, mais je pense qu'il y a globalement trois types de désunion, trois types de division dans les églises. Premièrement, ce que j'appelle la désunion morale. La désunion morale. Le péché peut contaminer une église au point où l'église doit prendre des dispositions radicales pour ôter le pécheur de l'assemblée, ou voir peut-être cette assemblée être divisée. Certains peuvent être influencés par quelqu'un qui est dans l'Église, qui décide de ne pas suivre le Seigneur, qui pêche et influence d'autres, et ça peut mener à une division. Il y a un exemple très clair dans 1 Corinthiens 5, que vous n'avez pas besoin d'y aller. Il y avait un problème d'immoralité sexuelle dans l'Église de Corinthe, et à un moment donné, l'Église se disait être très libérale, ils disaient « c'est super, nous on accepte tout le monde, tout va bien, c'est trop génial ». Et Paul, il dit au verset 2 de 1 Corinthiens 5, « Vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous ». Alors bien sûr, il y a une prescription sur comment agir lorsque quelqu'un doit être ôté d'une assemblée dans Matthieu 18, mais bref, il faut agir parce qu'une Église peut être divisée à cause de problèmes moraux. Un deuxième type, je dirais, de désunion dans les églises, c'est ce que j'appelle la désunion doctrinale. Des points de vue divergents sur des points de vue doctrinaux clairs. Il y a un exemple flagrant ces dernières années. L'église anglicane s'est récemment scindée en deux sur le sujet de l'homosexualité. L'aile libérale voulait consacrer des pasteurs homosexuels au ministère, tandis que l'aile conservatrice ou évangélique de l'église anglicane qui était menée par l'église anglicane évangélique africaine, c'est les Africains qui ont réagi par rapport à ça, et j'ai trouvé génial, ont refusé. Ils ont dit non, c'est pas biblique d'ordonner des pasteurs homosexuels, et donc l'église s'est divisée en deux. Alors, il y a plein de sujets doctrinaux qui peuvent diviser une église. Il y a aujourd'hui le ministère du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit, par exemple. La doctrine de la prospérité fait ravage aujourd'hui dans les églises et divise des églises. Le ministère féminin, l'application de l'église, de la discipline dans l'église, l'eschatologie. Un autre sujet aujourd'hui qui divise beaucoup l'église, c'est le calvinisme. Est-ce que Dieu est souverain dans le salut des âmes ou est-ce que le choix de l'homme compte-t-il pour quelque chose? Bref, d'innombrables sujets doctrinaux peuvent diviser les églises. Mais il y a une troisième raison, je pense, que les églises se divisent. C'est ce que j'appelle, ou c'est ce que le but de ce texte, ce qu'on appelle une désunion d'opinion. D'opinion. Ce genre de désunion peut diviser une église. Et c'est une désunion liée à des préférences. Des différences entre chrétiens qui ne sont ni commandées ni interdites dans les églises, dans l'Écriture. Ce sont ce qu'on appelle des domaines de préférence personnelle, des traditions souvent qui nous viennent d'habitude de notre arrière-plan ou bien religieux ou bien culturel, qui peuvent devenir extrêmement importants pour nous et créer des conflits dans l'Église. Et lorsque ces préférences qu'on peut avoir sont imposées sur d'autres personnes dans l'Église comme un signe de spiritualité supérieure, alors arrive confusion, tensions, désunions, clashs qui peuvent malheureusement mener à carrément des divisions d'église. Alors, ceci est parfaitement compréhensible. Alors, je vais vous donner plein d'exemples aujourd'hui, d'accord, pour qu'on essaie de comprendre comment ces désunions peuvent arriver. Alors, je prends l'exemple le plus classique, le plus simple, juste pour que ça soit clair. Prenons l'exemple de la musique dans l'église. D'accord? Pensez un instant à vous-même, vous. Pense à toi. Quel est votre arrière-plan spirituel? Certains de vous avez peut-être grandi dans une église, si vous étiez évangélique avant d'arriver dans cette église, vous avez peut-être grandi dans une église évangélique hyper conservatrice. Peut-être que dans votre culture évangélique, il y a des églises qui n'autorisent aucun instrument de musique. Seules les voix. Calvin, Jean Calvin de Genève, avait cette opinion. Lui, son opinion, c'était pas d'instrument pendant le culte. Luther n'était pas d'accord avec lui. Lui, il disait plus d'instruments, mieux c'est. Eux-mêmes n'étaient pas d'accord, d'accord? Donc certains de vous, peut-être, venez d'arrière-plan très conservateur vis-à-vis de la musique. D'autres, vous venez de milieu luthérien, dans le sens que vous, pour les instruments de musique, ce n'est aucun problème. Peut-être vous venez d'un arrière-plan charismatique ou autre où la musique rock était tout à fait acceptable. Il y avait même des ministères de danse pour Jésus. Voilà. Moi, il y a une dame qui est venue, que je connais de temps en temps, elle me dit, ce que vous avez besoin dans votre église, c'est un ministère de bannières. Donc, elle pense qu'il faut avoir des drapeaux. Alors, dans la Bible, il y a des bannières, ce n'est pas un problème d'avoir des bannières. Mais voilà, il y a des gens qui viennent de toutes sortes de cultures et d'arrière-plans différents. Et aujourd'hui, vous êtes assis l'un à côté de l'autre dans cette assemblée avec une troisième culture musicale que vous découvrez, c'est la nôtre. Voilà, c'est ce que vous découvrez ici. Ça, c'est notre culture musicale aujourd'hui à l'EI. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, l'EIG, c'est ça. Voilà. Alors, peut-être qu'une partie de vous a une tendance à vouloir évoquer un jugement. Vous dites, non, mais t'en vas. Musicalement, le côté A est mieux. Non, le côté B est mieux. Vous venez de faire un jugement. Un jugement personnel sur votre préférence musicale. Une opinion. Mais ce n'est pas tout. D'autres d'entre vous, vous venez de vous convertir récemment. Vous êtes nouveau chrétien. La culture d'église, vous ne connaissez rien du tout par rapport à cela. Vous êtes converti peut-être du catholicisme, alors vous avez une petite culture d'église, mais peut-être vous vous êtes converti du bouddhisme, ou du judaïsme, ou de l'humanisme, ou de l'athéisme, qui sait. Et aujourd'hui, vous êtes ici, tout est nouveau, et vous dites, mais c'est super ici, c'est sympa, moi j'aime bien. Et ceci va devenir, mes amis, votre culture musicale de préférence. Parce que en vous convertant dans cette culture, vous vous aimez bien. C'est des chants qui sont forts pour vous, vous les découvrez, et ça devient votre culture de préférence. Récemment, deux personnes dans notre église, il y a quelques mois en arrière, m'ont dit, Le même jour après le culte, ceci, quelqu'un m'a dit, ah, votre musique, elle est passée, il faudrait un petit peu la remonter un peu. Et quelqu'un m'a dit, moi, je viens à votre église que pour la musique. Je me suis dit, d'accord. Le message était moins important. Et j'ai trouvé intéressant deux personnes avec deux opinions très différentes sur la musique. Qui a raison? Qui a raison? Voilà le problème. Qui a raison? Et le jour où vous allez visiter une autre église, vous allez réaliser que l'expression de l'église sont très différentes l'une de l'autre. Certains aiment peut-être des expressions d'adoration liturgique, tandis que d'autres veulent quelque chose de spontané. Et fondamentalement, la question se pose, qui a raison? C'est une question d'opinion, de préférence. Alors bien sûr, on peut ajouter des points de vue théologiques, et souvent ces débats, on essaye de les faire des débats théologiques, mais souvent, ce sont vraiment des débats d'opinion. Alors c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Alors ça, c'est un exemple d'église que j'ai utilisé. Je vais prendre un autre exemple. Au niveau plan personnel, c'est pareil. Certains chrétiens viennent d'arrière-plan d'un légalisme strict, tandis que d'autres chrétiens viennent d'un arrière-plan d'ouverture et de liberté chrétienne. Je vous donne des exemples. On en a déjà parlé dans le passé, mais je redonne des exemples. Vêtements. Les vêtements. Certains viennent de milieux chrétiens où, par exemple, les jupes des dames devraient être en dessous du genou. Si c'est en dessus du genou, problème. Pour d'autres, mais non. Les mini-jupes, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Qui a raison? C'est intéressant, hein? Ou est-ce qu'on peut mettre des shorts ou des jeans? Est-ce que des jeans, c'est OK? Dans certains milieux chrétiens, il y a des règles subtiles et parfois pas très subtiles sur l'habit. Dans certains milieux chrétiens, on n'a pas le droit de mettre du maquillage. Bon, je dis « on ». D'accord, moi j'en ai pas, hein, juste pour que vous le sachiez, d'accord. Les femmes n'ont pas le droit de mettre de maquillage, ou pas de pantalon, ou pas de haut talon, ou il faut avoir des cheveux courts, pas trop longs, mes cheveux pas trop longs pour les hommes, courts, mes femmes blonds, enfin voilà, vous voyez, il y a toutes sortes de choses, bien sûr, toujours avec un arrière-plan biblique. Prenons un autre exemple. Harry Potter. Est-ce que j'ai osé prononcer ce mot, d'accord? Non, certains ne toucheraient pas un livre de Harry Potter, certains chrétiens. D'autres chrétiens ont lu tous les livres et vu tous les films en trois langues. Qui a raison? Qui a raison? Je prends un autre exemple très classique, l'alcool. L'alcool. A-t-on le droit, en tant que chrétien, de boire du vin? Pour un Européen, cette question paraît stupide. Les chrétiens européens, pour la grande partie, semble-t-il, n'ont aucun problème à boire un verre ou deux autour d'un bon repas, et même après le culte. Mais pour un chrétien nord-américain, ma culture d'où je viens... Alors là, on rentre sur un terrain très miné. La question est tout autre. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cette question est autre là-bas qu'ici? Ben parce qu'il y a des raisons historiques. Aux États-Unis, il y a tout le problème de la prohibition qui a influencé l'Église à l'époque. Pas en Europe. Alors qui a raison? Les Américains ou les Européens? Il y a encore plein d'exemples. La télévision, la radio, bon, c'est un peu moins d'actualité, mais autrefois... Moi, j'ai lu des témoignages que lorsque la radio a été inventée, des chrétiens pensaient que c'était le diable. Ça, c'était la radio. Télévision, pareil. Quand la télévision est arrivée, un grand évangéliste a dit qu'il a appelé la télévision le monstre à un œil. Bon, d'accord, c'est son opinion. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas très bien à la télé, mais est-ce que la télé, est-ce qu'on rejette tout d'un coup? Pour d'autres chrétiens, la télévision est un outil nécessaire, culturel, naturel, normatif. Qu'en est-il du cinéma? Ah, j'en ai un bon là. Tenez-vous bien. Est-ce qu'un chrétien a le droit de fumer? Wow, la question du siècle! Alors moi, je crois qu'il faut trancher cette question en trois parties. J'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce qu'il peut fumer des cigarettes, la pipe ou des cigares? Et je crois qu'il y a une différence entre les trois, je vous le dirai tout à l'heure ce que je pense, hein, c'est mon opinion là-dessus. Est-ce qu'un chrétien, autre grande question, est-ce qu'un chrétien a le droit de danser? Ouais, hein, c'est vrai que là je rentre. A-t-on le droit de danser? Certains diront jamais de la vie. Pourquoi pas? Là, ils disent que toute forme de danse est néfaste. Peut-être certains même iront jusqu'à dire qu'une danse est satanique. Ça, j'ai entendu aussi. D'autres vont conclure, mais non, d'avoir une danse folklorique, ça passe. Est-ce qu'on a le droit de danser la valse ou le rock'n'roll? Vous voyez, ce n'est pas simple comme question. Jouer aux cartes, Internet, les jeux vidéo et les jeux vidéo violents. Vous voyez, ce sont tous des sujets que je mentionne qui ne sont pas explicitement mentionnés dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui dit « tu ne regarderas pas des jeux vidéo violents ». Il n'y a pas ce verset dans la Bible, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit ou pas le droit? Ben, mes amis, voilà exactement le problème à Rome. C'est un problème qui existe dans toutes les églises. Ce problème de la liberté chrétienne. Alors, dans Romains 14, il y avait dans l'église de Rome un conflit par rapport à certains domaines de liberté et les chrétiens se jugeaient dans l'église vis-à-vis de ces comportements. Et donc, j'aimerais les regarder et j'aimerais simplement diviser le texte en cinq parties très simples. Premièrement, regardons le principe évoqué. Le principe évoqué, verset 1, d'accord ? Paul écrit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions ». Alors, Paul met le doigt ici exactement sur ce que nous avons déjà un petit peu discuté. Le problème était que les conflits qui surgissaient dans l'opinion concernaient, regardez, des opinions. Il le dit ici. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Donc, c'est le problème des opinions ici qui est en jeu. Pas de conviction théologique, bien que nos opinions peuvent parfois devenir des convictions théologiques justifiées ou pas. C'est ça le problème. Moi, c'est ce que j'appelle des préférences. Et donc, il y avait deux types de chrétiens dans l'Église que Paul libelle ici. Il y avait, regardez, accueillir celui qui est faible. Donc, il a ce qu'il appelle le chrétien faible. Et ensuite, il y avait les chrétiens forts. Regardez chapitre 15, verset 1. Paul dit, nous qui sommes forts. Donc, dans l'Église, il y avait deux types de chrétiens, ce qu'il appelle les chrétiens faibles et les chrétiens forts. Et Paul se considérait lui-même un chrétien fort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre un chrétien faible et un chrétien fort? Avant de répondre à cette question, le verset 1 nous donne un petit peu déjà la conclusion de Paul par rapport à ce problème. Il dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi ». Alors, il parle à qui ici? Aux forts. Il dit « Vous qui êtes forts, accueillez celui qui est faible ». Donc déjà, on a presque la conclusion avant d'arriver à la conclusion. D'accord? On va décliner tout ça un petit peu plus maintenant. Donc, on arrive maintenant au point 2. Au point 2, le problème abordé. Le problème abordé. Quel était le problème spécifique à Rome? Ben, il y en avait deux. Premièrement, c'était un problème de nourriture, le verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Voilà le problème qui existait dans l'église de Rome. C'était une question de nourriture et la question se posait, qu'est-ce qu'un chrétien a le droit de manger? Est-ce qu'un chrétien a le droit de manger de la viande ou pas? Ça, c'était un des gros sujets à l'église de Rome. Est-ce qu'un chrétien a le droit de manger de la viande ou pas? Tel croit pouvoir manger de tout. Alors, le chrétien fort ici se dit, moi je peux manger ce que je veux. Tout est OK. Tel autre, donc, qui est faible, verset 2, ne mange que des légumes. Donc, il y avait ces deux catégories de chrétiens. Et là, au niveau de la nourriture, le fort disait, moi, je peux manger ce que je veux. Beefsteak et légumes, chou-fleur, ce que je veux, porc, peut-être beefsteak. Et d'autres disaient, non, surtout pas. Que des légumes. Il faut être végétarien. C'était leur problème. Vous dites, mais c'est un drôle de problème à avoir dans une église. Nous, on ne se chamaille pas. Enfin, je ne pense pas que nous, dans notre église, c'est un sujet. Mais dans leur église, c'était un sujet. Alors peut-être on pourrait conclure, mais c'est ridicule. Alors il faut quand même savoir qu'il y a certains groupes chrétiens aujourd'hui qui prônent le végétarianisme. C'est pas nouveau. Alors, d'où venait cette perspective comme quoi la viande était une chose mauvaise à manger pour le chrétien? Alors, la réponse, elle est un peu complexe dans le sens qu'elle est débattue. Mais moi, j'ai l'impression que la réponse la plus cohérente et claire nous est donnée dans 1 Corinthiens chapitre 8. Alors, allons à 1 Corinthiens 8, c'est le livre juste après, et on va essayer de comprendre ce problème de viande, d'accord? Ce problème de viande et pourquoi certains pensaient que ce n'était pas bien de manger de la viande. On est dans 1 Corinthiens 8 et le verset 1. Un autre problème à Corinthe, d'accord? C'était le même problème à Corinthe, je pense. Il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Voilà le problème. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc, il y avait deux types de boucheries à Corinthe. Il y avait des boucheries normales, où tu allais manger ta viande, acheter ta viande et la manger. Mais il y avait une boucherie soldée, avec des actions liées au temple. Alors, cette viande était offerte au temple, à des idoles, puis ensuite, la viande était vendue moins chère. Alors, certains chrétiens disaient, la viande normale peut être OK, mais la viande du temple, non, parce qu'elle était contaminée par peut-être un démon. Et alors, ils allaient plus loin, ils disaient, oui, mais si tu vas à la boucherie, comment est-ce que tu sais que le boucher n'est pas allé au temple acheter un beefsteak pour moins cher, il le vend plus cher dans sa boucherie pour se faire des bénéfices plus grands. Toi, tu ne sais pas si finalement le beefsteak que tu achètes n'est pas un beefsteak du temple. Donc, on ne mange pas de viande. Voilà le problème. 2, verset 2, 1 Corinthiens 8, 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors c'est très intéressant ce que Paul dit ici. Il dit, un idole, il n'y a qu'un Dieu. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'il y a d'autres dieux. Il n'y a pas d'autres dieux. Alors il y a des démons, d'accord. Mais là il dit, il n'y a pas d'idole. Verset 5, car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux ou plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu le Père, et qui vient de toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Donc il est en train de dire, tu sais, il n'y a qu'un Dieu. Une viande en elle-même ne peut pas être contaminée par des idoles, parce que les idoles, en fait, ça n'existe même pas. C'est ça qu'il est en train de dire. Verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Paul dit, moi je comprends ça, mais tout le monde ne comprend pas ça. Quelqu'un qui sort du paganisme, il est convaincu qu'il y a un problème avec cette viande. Paul lui dit, mais non, il n'y a pas de problème avec la viande. Mais oui, je suis convaincu qu'il y a un problème avec la viande. Ok, alors sois convaincu qu'il y a un problème avec la viande. Mais moi, je te dis que théologiquement, il n'y a pas de problème avec la viande. Ça, c'était le débat. Verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelqu'un, d'après la manière dont il envisageait encore l'idole, mange de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, est souillée. Puisque tu es convaincu qu'il y a une idole rattachée à cette viande, tu te dis, ça va abîmer ma foi. Donc, ça crée un problème pour toi. Verset 8, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Il dit très clairement, il n'y a pas de problème avec cette viande. Les démons ne se rattachent pas à un bout de viande. Hein, il pensait que si je prenais ce bout de viande et je le mangeais, le démon se rattacherait au bout de viande et rentrerait en moi. Non, il dit Paul, non, mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Et donc il dit au fort, verset 9, fais attention. Si toi, tu es libre et tu manges un beefsteak devant un gars qui lui, est convaincu qu'il y a un démon dedans, ben, tu vas abîmer sa foi en te voyant manger cette viande. Verset 13, c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc, voilà le problème. C'est intéressant, je voulais juste vous montrer encore Matthieu 15, parce que c'était le même problème avec les Juifs et Jésus. Matthieu 15, 1, alors les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi des disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Alors les anciens, donc les traditions juives, disaient qu'il fallait absolument se laver les mains d'une manière spéciale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus que les démons passaient de la nourriture aux mains, et quand tu mangeais et tu prenais ta nourriture, tac, ça rentrait et tu serais démonisé par un démon qui passait par la viande. Et Jésus leur dit, dans ce contexte, verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Il a dit, mais attendez voir, vous avez pris vos traditions, ce que vous pensez être une vérité qui est fausse, et vous l'avez élevé au-dessus de la parole de Dieu. Non, il dit, ce n'est pas juste ce que vous faites. Donc il les gronde par rapport à cela. Donc maintenant, on revient à Romains 14. Et je pense que là, c'était le même problème. Donc, il dit au verset 1, « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les autres opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu les a accueillis. » Vous savez ce qu'il dit? C'est presque la conclusion. On pourrait presque arrêter le message là. Il dit « Arrêtez de vous juger mutuellement. » Si toi, tu es fort, tu penses que tu peux manger cette viande. Ne critique pas celui qui ne pense pas qu'il ne peut pas la manger. Et si tu es faible et tu ne peux pas manger de cette viande, eh bien ne juge pas celui qui est libre et qui peut la manger. Acceptez-vous mutuellement. Ça, c'est le principe de base au verset 3. Pourquoi? Eh bien, regardez ce qu'il dit. Que celui qui ne mange, qui ne mange pas, mais, non, t'es pas, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Dieu accepte tous les chrétiens, même avec leurs opinions divergentes. Ça qui est intéressant. C'est pas un problème fondamental, quelque part il est en train de dire. Même si le faible n'est pas théologiquement juge dans sa conclusion, ce n'est pas grave. Laisse tomber. Il n'a peut-être pas encore compris qu'il est en fait libre sur ce point. Le verset 4 maintenant. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Nous devons faire attention de notre jugement des uns et des autres, car notre jugement ne compte pas dans leur position avec Dieu. Qui juge chaque personne? C'est Dieu, finalement, qui me juge. C'est Dieu qui connaît les intentions de mon cœur. C'est Dieu qui connaît mon mobile. C'est Dieu qui sait exactement qui est John Gass à l'intérieur de moi. Dans 1 Corinthiens 4, je vous lis ces versets 3 à 5, Paul y dit, « Pour moi, il n'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. » Donc il avait une conscience claire par rapport à son comportement. « Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que viendra le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » C'est intéressant. Je vais être récompensé en tant que chrétien par le Seigneur. Donc ça, c'était le premier problème dans l'Église de Rome. Il y avait un deuxième problème. Le problème des jours de fête religieuse. Regardez verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Alors certains dans l'Église pensaient que certains jours étaient plus sacrés que d'autres dans le domaine de l'adoration de Dieu. Alors j'ai un exemple très concret. Moi je me rappelle quand je me suis converti, j'étais un jeune chrétien en 1976, je suis retourné d'Inde aux États-Unis, j'étais en Californie. Il y avait tout le Jesus Movement, hein, on était en plein dans le Jesus Movement, que je ne connaissais pas avant que j'étais. Et des nouvelles églises grandissaient très rapidement, des immenses églises qui démarraient parce que tous ces hippies californiens allaient dans ces églises et grandissaient. Et je me rappelle, à un moment donné, moi je commençais dans ma foi chrétienne et on entendait dire qu'il y a certaines églises qui ont décidé de faire le culte, puisqu'il y avait tellement de monde le dimanche, des cultes parallèles le samedi soir. C'était nouveau. Il fallait faire des cultes le samedi parce qu'il n'y avait pas assez de place le dimanche. C'était des cultes identiques. Alors la question qui s'était soulevée à l'époque, ben, est-ce qu'un chrétien peut aller au culte le samedi soir et pas le dimanche? Ou est-ce que c'est le dimanche qui est sacré? Ou est-ce que c'est un autre jour qui est plus sacré qu'un autre? Est-ce que le samedi, dans cette situation-là, était moins sacré que le dimanche ou pas? Alors, c'est marrant, c'est la question qui s'est débattue en Californie et c'est la question qui se débattait à Rome aussi. Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Alors, le faible, il libelle ici, enfin, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, ah non, oui, non, il y a des jours plus sacrés que d'autres. Tandis que le fort dit, mais non, c'est pas grave, on adore Dieu en esprit, c'est ok. Tu peux faire ça samedi, vendredi, c'est pas grave. Lundi, dimanche, samedi, comme tu veux. Qui a raison? Qui a raison? Mais il répond au verset 5, c'est une question de conviction, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Mais vous dites, ouais, mais John, il y a quand même une loi sur le sabbat dans la Bible. Le quatrième commandement. Allez, je vais vous le lire, d'accord? Exode 20. Il en parle clairement. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, le jour du sabbat, donc qui correspond à samedi, et le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est les 10 commandements. Donc là, il y a quand même une différence. On a envie de conclure. Alors ça, c'est vrai. Mais regardez avec moi Colossiens 2. Quelque chose s'est passé avec l'arrivée de Jésus-Christ. Dans Colossiens 2, verset 16, Paul écrit ceci. « Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Donc que personne ne vous juge par rapport à ça. Manger, boire, fête, nouvelle lune, sabbat, les fêtes religieuses juives. Verset 17. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ceci. Je prends ma main. Regardez ma main, d'accord? Il y a un spot là. Et là, ça marche mieux. Là. Là, si vous étiez avec moi, vous verriez l'ombre de ma main ici, sur la chair. Le sabbat de l'Ancien Testament, selon Colossiens 2, c'était l'ombre. Mais quand Christ est venu, Christ, notre sabbat est venu, ben lorsqu'il est venu et je mets ma place sur la chair, il n'y a plus d'ombre. Christ a remplacé l'ombre. C'est ce que Colossiens 2 dit ici. Le sabbat est une ombre, Christ est le corps qui crée à l'ombre. Théologiquement, Christ aujourd'hui est notre sabbat. Et donc, nous, dans le Nouveau Testament, on n'est plus lié au sabbat comme il l'était dans l'Ancien Testament. Dans Colossiens 4 et verset 8, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez les dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années, ce sont les fêtes religieuses juives. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Il dit, mais attendez voir, vous êtes en Christ aujourd'hui. Vous êtes libre de toutes ces fêtes du passé, mais vous voulez continuer à les imposer sur votre foi chrétienne. Non, vous vivez aujourd'hui dans la grâce et la liberté chrétienne. Et on a vu, on voit dans le Nouveau Testament que les chrétiens, très spontanément, commencent à adorer Dieu maintenant. Du sabbat samedi, il passe à dimanche. Pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus dans le Nouveau Testament des gens qui adorent Dieu le dimanche? Parce que Jésus est ressuscité le dimanche matin. Et donc c'est devenu une norme, ce n'est pas imposé, ce n'est pas une loi dans le Nouveau Testament, c'est un exemple, c'est ce qui s'est passé naturellement. Ils se sentaient libres par rapport au sabbat parce que Christ est devenu leur sabbat. Et maintenant ils étaient libres, ils se sont dit, mais Christ est là, il est ressuscité, c'est le jour de victoire. C'est le jour où le péché était conquis, à partir de là, on va louer et adorer le Seigneur le dimanche matin. Voilà pourquoi notre culte est le dimanche matin. C'est pure tradition, par rapport à ce qui se faisait aussi dans le Nouveau Testament à l'époque. Le problème, ici, c'est que le fort est OK avec ça. Le faible, il dit, non, moi, je ne suis pas convaincu. Pas convaincu de la légitimité de l'abolition de ces jours de fête. Alors, qu'est-ce que Paul répond ? Retournons à Romains 14. C'est ce qu'il répond, c'est trop génial. C'est pas grave. Ne vous chamaillez pas sur ça. C'est pas la fin du monde. Voilà ce qu'il dit. Verset 5, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, ben que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ok. Sois convaincu. Alors je pense que cette conviction, c'est intéressant, ça nous pousse à l'étude aussi, ça nous pousse peut-être c'est pas clair, peut-être j'ai hérité une tradition hein, de ma tradition, alors peut-être que je dois plus réfléchir à ça. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je me tiens tellement à mes convictions? Est-ce que vraiment j'étais honnête? Est-ce que j'ai hérité ça du passé et donc c'est juste? Ou est-ce que vraiment j'ai pris le temps et j'ai essayé de retravailler ces choses pour vraiment les comprendre pour moi? Moi je pense que c'est ce qu'il est en train de dire ici, que ce soit ta pleine conviction. Alors, j'aimerais résumer ces deux problèmes, comme le commentaire Moule les résume, j'ai trouvé très très bien, alors je vais lire ce qu'il a écrit, d'accord ? Je lis ceci. Les faibles semblent avoir été influencés par la tradition juive ascétique. La Torah, les 5 premiers livres de la Bible, n'interdit ni le manger de la viande, ni le boire du vin. Ceci dit, beaucoup de juifs qui vivaient dans les cultures païennes évitaient de manger de la viande ou boire du vin parce qu'ils ne pouvaient pas garantir que la viande vendue au marché avait été préparée selon les directives de la loi de Moïse. Le vin était également souvent lié à des cultes idolâtres païens de débauche. Et il donne un très bon exemple. Il dit un bon exemple ici, c'est Daniel qui s'est retrouvé d'un jour à l'autre dans la cour du roi de Babylonie. Vous vous rappelez cette histoire? Et dans Daniel 1,8, on offre des mets luxueux à Daniel et il est dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc c'est un petit peu pareil ici. Voici le scénario à Rome avec ses premiers chrétiens. Je cite encore Moo. Des nouveaux chrétiens juifs à Rome qui étaient convaincus de la Torah étaient encore autoritaire, que Torah était encore autoritaire dans la vie des chrétiens, affirmait que les vrais chrétiens devaient éviter de la viande et les vins et devaient respecter les jours religieux juifs. Ainsi, le chrétien éviterait la contamination par le monde païen et plaire à Dieu. Mais ils étaient minoritaires dans l'Église. Le groupe majoritaire était des gentils, des païens romains qui se sont convertis à Christ et ils disaient que ces devoirs juifs était ridicule. Il disait que les chrétiens n'étaient pas obligés de garder la Torah, que les chrétiens sont libérés des règles de la loi. Dans Acte 10, Pierre avait été commandé par Dieu de tuer et manger des animaux qui dans la Torah étaient considérés souillés. Et dans Colossiens 2, il explique que le sabbat était l'ombre des choses à venir et que l'arrivée de Jésus-Christ abolissait la loi du sabbat. Christ est notre sabbat dorénavant. On est donc libre aujourd'hui dans la nourriture que nous mangeons et l'observation des jours religieux. Alors tenez-vous bien. Non, c'est moi qui parle, d'accord ? Tenez-vous bien. Paul se range du côté des forts. Chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts. Paul avait enseigné dans Romains 6, 14, que les chrétiens ne sont plus sous la loi. Même Paul, selon 1 Corinthiens 9, 19 à 23, n'obéissait pas toujours à la loi juive. Il était libre vis-à-vis de la loi. Et donc, le but de Paul ici, c'est ne pas de dire qui a raison et qui a tort. Ce n'est pas son but. Alors, on peut creuser et conclure sur certains de ces problèmes, d'accord ? Mais il dit, tout le monde n'est pas au même niveau dans l'étude et la compréhension de ces choses. Donc, oublie. Ce n'est pas la fin du monde. La clé, écoutez, si vous n'avez rien entendu encore, écoutez. La clé, c'est l'unité. Pas le compromis, parce que ce sont des préférences, c'est l'unité. L'unité, surtout lorsque les problèmes sont liés à des préférences. Verset 6, Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Ah, c'est intéressant, la clé de tout ce débat, c'est le mobile. Si un chrétien faible pense qu'il faut faire des distinctions entre les jours et qu'il ne faut jamais manger de viande, il le fait pour le Seigneur. Ben, alléluia! Il rend grâce à Dieu et le loue dans cette conviction. De la même manière, celui qui est fort et qui ne fait pas de distinction entre les jours et se priverait d'un bon beefsteak, ça il ne le ferait pas, il veut son beefsteak. Eh bien, il le fait également pour le Seigneur. Et avant le beefsteak, il va remercier Dieu pour ce beau steak. Les deux rendent grâce à Dieu. Vous voyez ? Alors, question, est-ce que Dieu accepte les deux ? Même s'ils ne sont pas d'accord. Ben oui, apparemment il accepte les deux. C'est le but du texte. Verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Même si on a des opinions différentes sur des points secondaires. Verset 9, car Christ est mort, il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts, sur les vivants. C'est lui qui est le maître de nos vies, quelles que soient nos préférences. Nous sommes tous égaux dans notre salut par Jésus-Christ, c'est ça la clé. Alors, je ne sais pas si vous comprenez le problème, l'enjeu à Rome, c'est intéressant, je trouve. C'est tellement actuel, en fait. C'est tellement pratique. Moi, je me rappelle, ça nous fait rire. Moi, ça fait 25 ans que je suis pasteur, donc j'ai été dans plusieurs églises. Moi, une fois dans une église, dans toutes les églises où j'étais, j'étais une des influences pour amener la batterie. Et j'ai entendu plus qu'une fois, quelqu'un m'a dit ça texto dans une église, John, tu viens d'amener le diable dans l'église. Je me suis dit, attends. Est-ce que le diable est littéralement attaché à une cymbale? Et ensuite, quelqu'un m'a dit récemment, mais c'est intéressant, si tu regardes de la musique classique, tous les éléments d'une batterie, bon là c'est moins visible, mais dans une batterie normale, vous verrez la grande caisse, les cymbales, le snare. Dans un orchestre classique, tous ces éléments existent, mais ils sont séparés. Donc là, ça passe. Mais quand tu les mets ensemble dans une batterie comme ça, pour une raison étonnante, ça ne passe pas. Très actuel. Et je pense que le vrai problème avec la batterie, c'est notre expérience culturelle du passé, où on lit un objet avec peut-être un style de vie qui a été très difficile pour nous. Ça, c'est différent. Moi, je me rappelle dans une église une fois aussi, un Brésilien est venu dans l'église, et c'était le jour de la Sainte-Seine, et on a servi notre Sainte-Seine, et en Europe, il y a du vin, du vrai vin. Il a été scandalisé, il m'a dit, mais John, vous salissez l'église en mettant du vin ? Dans la Sainte-Seine, j'ai dit, ah bon ? Et dans sa culture, alors je sais pas, peut-être les Brésiliens peuvent confirmer, il m'a dit que dans sa culture au Brésil, le vin était vraiment considéré, surtout pour la Sainte-Seine, quelque chose d'inimaginable et ignoble. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps en arrière, j'étais avec un pasteur et... On a servi à manger et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu aimerais boire ?» et tout. Et il a dit « Écoute, un whisky, ce serait super. » Je dis « Wow !» C'est les deux extrêmes, quoi. Ça m'a vraiment fait rire. Et on peut avoir vraiment des opinions très fortes sur ces choses, n'est-ce pas ? Très, très fortes. Alors, regardez, la prohibition partagée. Verset, le troisième point, c'est un peu, les points sont restreints aujourd'hui. Verset 10, regardez. La prohibition partagée. Maintenant, il donne la prohibition. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Sur ces domaines-là, arrêtons de nous juger. On peut en parler amicalement. Ah tiens, on est différents. Waouh ! Je ne partage pas trop cette opinion, mais je t'aime, frère, il n'y a aucun problème. Alors, ça va être un petit peu plus... je vais vous donner un petit... Parce qu'on va faire la deuxième partie la semaine prochaine. Ça va un petit peu plus loin que ça. Il y a un respect mutuel. Regardez le chapitre 15, verset 1. Je vous donne déjà l'amorce de la semaine prochaine. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Donc, il y a un moment donné où celui qui est fort doit aider celui qui est faible. Et ça, on va discuter. Parce que je crois qu'il y a au côté personnel une manière de le faire. Mais ensuite, au niveau d'église, comment on fait? Si certains dans l'église n'aiment pas quelque chose, au niveau des préférences, mais d'autres oui, qui peut créer un conflit, ben alors, qui tranche? Qui décide? Comment on fait? Il faut venir la semaine prochaine pour savoir comment on va faire, d'accord? Comme ça me donne une semaine pour y réfléchir et essayer de trouver la solution, d'accord? Non, c'est pas vrai, elle est dans la Bible. Donc la prohibition, c'est ça, ne juge pas ton frère, ne méprise pas ton frère. Et ça, c'est pas toujours facile à faire. Allez, je vous donne encore un exemple. Ça, j'y ai réfléchi cette semaine. Imaginez que vous êtes invité chez un pasteur. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous donne l'exemple, d'accord? Et après le repas, il sort une pipe. Et il commence à fumer une pipe. Comment vous réagissez? Un pasteur, attention, un pasteur. Pipe. Ou il sort un cigare. Alors, je me suis intéressé à ce sujet cette semaine, parce que moi, j'étais un fumeur de cigares. J'ai beaucoup fumé. Je fumais deux paquets par jour entre l'âge de 12 et 19 ans. Je fumais énormément de cigarettes. Moi, c'était les Marlboro que je fumais, d'accord? Juste pour vous le dire. Parce que je trouvais que les Marlboro, c'était cowboy. Hein, c'était la pub à l'époque, vous savez. Alors, je suis allé sur les sites internet pour savoir comment fumer la pipe et fumer le cigare cette semaine. Et ce que j'ai appris, c'est que quand vous fumez la pipe, il ne faut surtout pas avaler la fumée. On m'a dit. Pourquoi? Parce que apparemment l'arôme est meilleur qu'on n'avale pas la fumée. Oui, ben alors l'argument qui est toujours sorti, c'est dans Corinthiens 6, oui, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit, il faut prendre soin. Alors ça c'est vrai. Mais est-ce que la fumée de la pipe non avalée a un effet néfaste sur le corps humain? Ça c'est la question. Alors je n'ai pas été plus loin dans ma recherche, d'accord? Donc, ensuite j'ai été voir sur comment fumer un cigare, et ils disent exactement pareil. Mieux vaut pas avaler la fumée du cigare parce que l'arôme est mieux dans la bouche et dans le nez, ou je ne sais pas trop exactement, d'accord? Mais la cigarette, c'est très différent. Moi, j'avalais à fond la fumée. Mon beau-père est mort de l'emphysème des poumons. La cigarette tue, c'est ce qui est marqué sur les paquets de cigarettes aujourd'hui. Donc y a-t-il une différence? Alors je ne suis pas en train de prôner et en train de vous pousser à la consommation de cigares et de pipes. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je me dis, quand on analyse ces sujets de préférence, est-ce que même dans le domaine de la fumée, il y a vraiment une différence entre ces éléments qu'on pourrait fumer? Et on ne parle même pas de la marijuana ou du hashish. Ça, c'est néfaste, ça c'est différent. Alors, c'est quoi la clé? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de principes qu'on pourrait aussi évoquer sur la sagesse de tel comportement. Mais je crois qu'ici, ce qu'il est en train de dire, ne juge pas ton frère, surtout dans un domaine de liberté chrétienne. Moi, une fois, il y a des années en arrière, quelqu'un est venu me voir, parce que moi, j'ai mon habitude, des fois, à la fin du culte, en tant que pasteur, je vais à la porte et je dis au revoir aux gens. Mais ici, je vois que les gens s'éparpillent un petit peu partout, alors souvent, je reste là, puis certains qui veulent me dire bonjour, viennent ici. Et une fois, il y a des années en arrière, quelqu'un est venu me dire, John, c'est pas juste. Un pasteur doit se mettre à la porte et doit dire au revoir aux gens. Et il avait un gros problème, et il me jugeait par rapport à ça. Je dis, attends, est-ce que je dois être là-bas, ou est-ce que je peux pas aussi être ici? Est-ce que je dois être là-bas? Vous voyez, c'était un jugement qu'il évoquait. Préférence. C'est peut-être sage d'être là-bas, c'est sympa, mais c'est dur de parler vraiment avec les gens parce que tout le monde, ça file. Donc c'est peut-être mieux d'être ici. Vous voyez, c'est préférence. La question ici, c'est est-ce que je juge mon frère par rapport à ses préférences. Alors le pourquoi expliqué, je termine avec ceci. Regardez verset 10b. Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce qu'il est en train de dire, écoutez, voilà, dans les domaines de préférence qui ne sont pas clairement évoqués comme un interdit ou un ordre dans la Bible, il y a une certaine liberté. Certains chrétiens vont être forts, certains vont être faibles, certains vont avoir un problème avec ceci, certains vont avoir un problème avec cela. Ok, tu es redevable devant Dieu pour ton comportement et pour ton attitude. Et là, on ne parle même pas du jugement de Dieu parce qu'on est déjà pardonné pour nos péchés. C'est vraiment une situation de récompense. Le tribunal de Christ pour un chrétien, c'est comment Dieu va me récompenser par rapport à mes attitudes et comment je me sers des dons qu'il m'a donnés. En Corinthiens 3. Et je pense que la clé pour aujourd'hui, je termine avec ceci, c'est que je dois rendre compte à Dieu pour mon comportement et comment je juge les autres par rapport à leur domaine de liberté chrétienne. Cinquième point, la pratique adoptée, ça on verra dimanche prochain. Comment on applique ça dans l'Église ? J'arrête un petit peu brusquement, mais le texte est là, d'accord ? Et moi, ce que je ressors ici, c'est que je vois Paul qui dit qu'il est fort en Christ. Il y a une grande liberté que nous avons, grande liberté. Mais nous devons aussi honorer celui qui est faible, celui qui n'a peut-être pas compris certaines des choses que nous avons comprises. Donc, ça demande un dialogue, une compassion, un honneur mutuel, d'aller lentement, de ne pas trop brusquer les gens. Moi, je remercie le Seigneur qu'on est libre en Christ. Ah, je suis vraiment, vraiment reconnaissant au Seigneur. On va prier, d'accord ? On va prier. Moi, je crois que ce serait le moment de peut-être réfléchir à vous-même, de quelle culture vous venez. J'ai donné plein d'exemples aujourd'hui. Peut-être il y a des jugements dans votre cœur par rapport à d'autres sur certains sujets qui sont vraiment des sujets de préférence. Peut-être vous êtes un jeune chrétien et vous avez de la peine avec les libertés que des chrétiens plus âgés prennent. Mais Seigneur, moi je te demande vraiment dans cette église qu'il y ait un dialogue. Qu'on puisse être vraiment ouvert, Seigneur, qu'on puisse discuter nos différences. Avec une église tellement variée comme la nôtre, avec quoi, 35 nationalités, d'arrière-plan tellement différents, Seigneur, il est évident qu'il y aura des frictions sur certaines choses. Oh Seigneur, moi je te demande aujourd'hui de nous aider dans nos attitudes. La clé c'est que nous voulons nous aimer les uns les autres, nous voulons être unis Seigneur. Nous sommes une église, nous avons été rachetés en Jésus-Christ. C'est ça le message, c'est ça la vérité Seigneur. Et je te prie, je te supplie que nos différences ne soient pas ce qui est su de notre Église, mais que ce soit notre unité en Christ, que l'Évangile prime. Et Seigneur, on le verra la semaine prochaine. S'il y a certaines choses que je me permets qui font du mal à mon frère, eh bien que je me sente libre d'arrêter pour l'honorer. Seigneur, je te prie pour les personnes qui sont peut-être là pour la première fois aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui ont des lourds fardeaux qui les portent aujourd'hui. Des gens dans la difficulté se disent, mais ce message ne m'a pas trop parlé. Mais Seigneur, toi tu peux prendre ce message. C'est ta parole, elle est vivante, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli sa volonté. Seigneur, tu peux toucher chaque cœur ici ce matin, je te prie de le faire. Seigneur, montre ta grâce, révèle-toi, ton amour, ton pardon à toute personne ici, Seigneur. Si quelqu'un ne te connaît pas, qu'il puisse aujourd'hui dire, ô Jésus, s'il te plaît, pardonne mon péché, donne-moi cette vie éternelle, Seigneur. Et tu vas lui donner aujourd'hui même. Seigneur, merci et merci encore. Nous t'adorons, nous t'aimons, nous te louons, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Seigneur, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, fais de nous une église d'adorateurs, en esprit, en vérité. Je te le demande, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus.